Il y a marqué réconciliation et pardon, on verra un peu que c'est différent. C'est une question qui est capitale, non seulement pendant la période du carême, mais qui est capitale certainement dans le message de Jésus. Vous avez la petite feuille avec les différents points que je vais traiter pendant cette méditation, et vous pourrez aussi, à l'issue du topo, poser vos questions. C'est capital parce qu'au fond, c'est la mission du Christ lui-même qui invite à la réconciliation. Et je trouve qu'il faudrait que davantage l'Église, les chrétiens, les Églises de façon générale, elles le font, mais peut-être pas assez, s'investissent sur cette question de la réconciliation. Parce que c'est le cœur du message évangélique. Pourquoi le Christ est venu sur terre ? Pourquoi le Verbe de Dieu, celui qui dit Dieu, est venu sur terre ? C'est pour réconcilier l'homme avec Dieu à la suite du péché originel. Donc il y a cette question de salut aussi. Au fond, le Christ, le salut est une réconciliation et la réconciliation est un salut. Nous avons besoin d'être réconciliés. Première question, est-ce que je prends conscience que cette réconciliation est aussi pour moi, cette réconciliation avec le Seigneur ? Ou est-ce que, somme toute, je me trouve pas si mal que ça, bon, j'ai pas tué père et mère, etc. Et puis, voilà, somme toute, voilà, ça va bien, quoi, dans ma vie, en plus, j'ai la foi, je suis... Oui, il y a une forme d'orgueil, c'est ça qui est difficile avec l'orgueil. Avec l'orgueil, vous êtes, je sais pas quoi, vous braquez des banques, vous êtes un narcotrafiquant, etc. Et a priori, vous vous en rendez compte. Sauf, bon, alcoolique, on peut très bien être dans le déni, mais bon, ce qui peut aller très loin, mais vous vous en rendez compte. L'orgueil, on s'en rend pas compte. C'est-à-dire que on s'en rend pas compte dans le sens où, si on est colérique, par exemple, on s'en rend compte. Si on est menteur, ou si on est... Oui, dans l'orgueil, la difficulté, c'est qu'il y a cette auto-célébration de soi-même, cette mise en avant de soi-même, cet ego surdimensionné, qui fait que je ne vois pas à quel point j'ai besoin d'être sauvé. À quel point j'ai besoin d'être sauvé. Et à quel point ma relation aussi amoureuse, pour certains d'entre vous qui êtes dans une démarche amoureuse, ou ma relation amicale, ma relation familiale, alors parfois on le touche du doigt. Il y a des temps de grâce comme ça. Pour justement dire, si c'est pas le Seigneur qui vient à mon secours et qui me tend la main, je m'en sortirai pas. Alors d'abord, où est-ce qu'on en est, nous, de cet accueil du salut ? Est-ce que c'est quelque chose qui nous habite, ou est-ce qu'au fond, je demande à Jésus plus des valeurs, plus qu'un salut ? C'est pas du tout pareil. Parce que des valeurs, d'autres peuvent donner d'autres valeurs très bonnes par ailleurs. Mais vous comprenez bien que les valeurs chrétiennes et le salut, c'est deux cours différentes. Dans les valeurs chrétiennes, je reste quand même très extérieur. C'est des choses qui me... Et puis en plus, je choisis, je fais ce que Benoît XVI appelait dans son homélie au JMJ de Cologne, et je fais du bricolage spirituel, je choisis ça. Dans le salut, je me présente comme un pauvre face au Seigneur, viens à mon aide. C'est ce que nous, comme religieux, lorsqu'on chante l'office des laudes, des vêpres, des complis, on dit « Dieu, viens à mon aide, Seigneur, viens vite à mon secours ». Et voilà, donc peut-être serait bien le temps du carême pour mesurer à quel point, sans moi vous ne pouvez rien faire, dit Jésus, à quel point on a besoin d'un soutien, à quel point nous sommes des pauvres, au fond. Et dans les nombreuses préparations au mariage que j'ai la joie d'accompagner, je ne manque pas de dire que le mariage, c'est l'union de deux pauvres. De même qu'une communauté religieuse, ce sont des pauvres qui se mettent ensemble sous le regard du Seigneur, et que l'orgueil, au fond, est rabaissé, et par l'histoire, tant des couples que des communautés, dès qu'on a voulu être quelqu'un en dehors de Dieu, dès qu'on a voulu, par soi-même briller, telle ou telle chose arrive, parce que pour nous rappeler à l'humilité. Donc c'est intéressant de voir que le pardon, c'est la cinquième demande du Pater, le pardon. C'est vraiment, je dis ça parce que je trouve qu'on a trop mis l'accent. Et le pape François le dit aussi, on a trop mis l'accent sur l'aspect moral que l'Église propose, qui est aussi intéressant, qui est aussi un lieu de réconciliation que ce soit en termes de défense de la vie, que ce soit en termes de morale sexuelle, de morale familiale, etc. Bon, les non négociables, comme on a pu entendre dire ces derniers temps. Maintenant, la réconciliation, c'est très certainement le cœur de la mission de Jésus, et Jésus en parle beaucoup plus que tous les autres aspects que je viens d'évoquer. Et alors que je trouve que, quelque part, on a peut-être mis plus l'accent sur la loi que sur le pardon. Vous voyez, plus peut-être on est héritier de ce 19e siècle qui est le siècle du puritanisme du côté du protestantisme, mais aussi siècle du rigorisme moral. Et du coup, on a perdu de vue que font la réconciliation et au cœur même du message du Jésus. C'est vraiment de nous remettre en lien avec Dieu, et parce qu'on est en lien avec Dieu et par un effet de domino, eh bien on est en lien les uns avec les autres. Et on est une famille humaine, on n'est pas une juxtaposition d'individus. Et ça, je crois que le redécouvrir, et que l'Église soit peut-être plus proposante dans ses démarches. Et quand je dis réconciliation, c'est autre chose. Bien sûr qu'il y a le sacrement de réconciliation, c'est même un sacrement, donc c'est quand même pas rien, il y en accepte. Mais aussi en termes de médiation, là je voyais en Haïti, le cardinal de Port-au-Prince a fait une médiation pour que, entre des partis, il puisse arriver à des élections au mois d'octobre, par exemple. Mais voilà, qu'on se sent plus investi, nous aussi, comme chrétiens, dans cette dimension-là, alors qu'on a peut-être moins l'habitude, et alors que c'est plus beaucoup plus central dans le message du Christ que d'autres aspects de morale familiale qui sont rappelés à l'occasion des évangiles, mais que Jésus ne s'est pas sur le cœur du cœur de sa mission. Donc voilà. Autre point, c'est le mot réconciliation vient de clarté. J'aime bien toujours voir l'origine des mots. Ça vient de clarté, et donc c'est mettre au clair, faire le clair. Maintenant, ce qui était dans l'ombre, ben, je l'amène à la lumière, hein, sur tel ou tel aspect de ma vie. C'est ça, se réconcilier. C'est laisser la lumière qui vient du Seigneur, eh bien, laisser l'amour circuler à nouveau alors qu'il a été bloqué par l'offense. Une différence entre réconciliation et pardon, c'est pas pareil. La différence, c'est que dans réconciliation, il faut au moins être deux. Dans le pardon, on peut faire cette démarche tout seul. Parce que la question se pose, et elle s'est posée peut-être pour vous, ou elle se posera, la question c'est, quand l'autre reconnaît pas qu'il y a un problème, il voit même pas le problème, ou plutôt il vous dit, c'est toi le problème. Vous voyez, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Comment avoir une réconciliation quand, donc réconciliation c'est un dialogue qui fait que voilà, la confiance est retrouvée, etc., l'amour circule, quand l'autre dit non, mais c'est reconnaît pas. Donc la médiation est certainement un élément important qui permet d'objectiver l'offense et d'objectiver, etc. Mais certains, malgré ça, n'y arrivent pas parce que c'est une telle remise en cause de leur vie, etc., qu'ils n'y arrivent pas. Mais au moins, ce qu'on peut faire, c'est une démarche de pardon. Et le pardon, c'est une démarche personnelle. C'est penser à l'autre paisiblement. Rien que ça. On va voir un peu les différents aspects, mais penser à l'autre paisiblement. Quand j'évoque la pensée de l'autre, quand j'ai l'image de l'autre, de celui qui m'a blessé, eh bien, je m'attriste du mal qu'il a reçu, et je me réjouis du bien, au contraire, qui lui arrive. Ça, c'est un signe du pardon. Donc, penser à l'autre en l'aimant, au fond, hein, et même si, forcément, l'autre ne le reconnaît pas. Donc je disais, c'est le deuxième point sur vos feuilles, c'est la demande explicite de Jésus, la cinquième demande du Pater, et au fond le christianisme prêche pour une certaine modestie dans le pardon, dans la réconciliation. Ça veut dire quoi modestie? C'est-à-dire que les signes, les gestes que l'on pose, les actes que l'on pose, les paroles que l'on dit, vont peut-être pas arriver à une totale, on va pas se jeter dans les bras l'un de l'autre, alors que le tort a été considérable, le tort au niveau de la réputation, le tort pour ma famille, le tort au niveau financier qui a mis telle ou telle personne dans de graves difficultés, etc. Donc là aussi, soyons très réalistes et cessons de rêver, il peut y avoir un rapprochement, mais en même temps, le christianisme prêche pour une certaine modestie dans le pardon et dans la réconciliation. C'est-à-dire que, quelque part, tant que le Seigneur ne sera pas tout en tous, tant que l'Esprit Saint ne viendra pas nous habiter totalement, il n'y aura pas une parfaite réconciliation. Et donc, il faut aussi se faire à l'idée que, dans nos vies, il y a des personnes avec qui c'est compliqué. Non seulement il y a des personnes avec qui c'est compliqué, mais il y a des personnes qui sont, dont il faut même se protéger. Dont il faut même se protéger parce qu'elles vous détruisent. Elles vous détruisent par, essentiellement, elles vous détruisent par la culpabilité. Une culpabilité qui n'est pas en place. Et donc, du coup, des personnes comme ça qui peuvent être mortifères, des personnes. Et je crois que c'est intéressant de pouvoir nous-mêmes découvrir dans notre vie comment et à quel point le Seigneur, au fond, veut nous proposer cette dimension du pardon comme un lieu où la vie retrouve ses droits, alors que la mort était au rendez-vous. Est-ce que je crois que la vie est là et qu'elle peut avoir lieu et que le Seigneur veut nous la donner et nous la donner en abondance? Au moins intérieurement, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi, est-ce que je rentre dans une démarche de d'abord, le pardon, on va le voir, c'est d'abord à l'intérieur de nous-mêmes. Est-ce qu'une démarche intérieure de remise en cause, c'est un travail sur soi-même? Ça ne se fera pas sans travail sur soi-même, la réconciliation ou le pardon. Parce que, et ce n'est pas en accusant sans cesse l'autre, en lui jetant la pierre, même si les torts sont objectifs, ce n'est pas en faisant ça qu'on guérira dans notre vie les blessures causées par tel ou tel. Et de notre côté, donc on a une certaine modestie dans le sens où on se dit, je tente des paroles, je tente des mots, des gestes, des approches, des... Maintenant, il y a des personnes dont il faut peut-être que je m'éloigne ou dont je dois protéger ma famille ou voilà, c'est la triste réalité, mais c'est comme ça. Mais aussi, c'est assez intéressant de dire que le pardon, et c'est la fin du deuxième point, il est déjà là. Il est déjà là. C'est le déjà et le pas encore. Déjà et le pas encore. Donc ça veut dire que et c'est ça que le chrétien est en tension d'une certaine manière. Le chrétien, il vit le déjà, c'est-à-dire déjà nous sommes sauvés par le Christ, mais pas encore dans le face-à-face. Déjà nous sommes ressuscités, mais nous ne sommes pas encore dans la gloire. Déjà le pardon a été vraiment semé dans notre cœur, et du coup, de ce point de vue-là, ce pardon-là, eh bien, il peut nous habiter, et puis il peut rayonner autour de nous. Et ça, je pense, de ce côté-là, c'est important de réaffirmer que nous partons de la réconciliation, nous partons de la communion. Elle est déjà entre nous. Elle n'est pas manifeste parce que nous sommes pécheurs, parce que nous sommes orgueilleux, parce que nous avons blessé, mais c'est pas encore la plénitude, et ça, c'est vrai que du coup, ça nous fait désirer. D'où l'importance de la vie de prière aussi. Non seulement dans le Notre Père, et c'est intéressant de voir que c'est au cœur même du Notre Père, donc de la prière que Jésus nous a enseignée, qui nous parle du pardon. C'est pas un hasard. Il ne parle pas des autres aspects de la vie chrétienne, mais il parle du pardon. Comme pour dire, au fond, je m'adresse au Père pour demander cette grâce. Parce que c'est de l'ordre de la grâce. C'est pas simplement un travail intérieur, un travail psychologique. Les deux, humains et divins, doivent aller de pair. Mais il y a un vrai travail de la grâce. Et puis, voilà, le Christ, il suppose ce pardon que le Christ se soit incarné en personne. Ça, c'est intéressant, ça, de se dire que le Fils, alors c'est un peu de la théologie, c'est un peu compliqué, celui qui est prince de la paix a réconcilié avec Dieu par sa croix, rétablissant l'unité de tous en un seul corps. C'est intéressant de dire ça parce que c'est, quand on veut définir le christianisme, des personnes qui sont pas chrétiennes, elles vous diront, c'est la religion de l'amour. Mais comment est-ce qu'on peut dire que c'est la religion de l'amour? Parce que on a vu cet amour à l'œuvre en Jésus, dans son humanité. Dieu fait homme dans son humanité. Donc quelque part, pour qu'il y ait un pardon et qu'il y ait un salut et qu'il y ait une réconciliation, il y a besoin de voir à l'œuvre dans une vie humaine cette œuvre, ce pardon et cette réconciliation. Hein, et du haut de la croix, Jésus qui dit « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », parce que c'est vrai que quand on fait du mal, eh bien on ne sait jamais vraiment tout ce qu'on fait. C'est pour ça que pour nous, il y a un pardon, il y a une miséricorde pour nous, humains, parce qu'on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. Hein, et donc du coup, c'est intéressant de voir qu'au fond, c'est Jésus qui nous permet, le Fils incarné, le Verbe du Père, qui nous permet de rentrer. Alors, on n'est pas les seuls à pardonner, etc., bien sûr, mais il y a là comme un exemple, comme non seulement un exemple, mais une capacité, nous rend capable d'eux par le baptême. Nous sommes rendus capables aussi d'un amour plus fort que la mort. C'est ça le baptême. On est greffé sur le Seigneur. Et donc, du coup, on est rendu capable de cet amour, et en même temps, on est rendu capable de ce pardon que le Christ, le Christ ne serait pas venu, le Verbe n'aurait pas pris notre nature humaine. Eh bien, on serait dans l'idée du pardon, bien sûr, qui est une idée partagée par beaucoup, mais sans forcément un exemple vécu jusqu'au bout. Et surtout, sans une victoire du pardon que la résurrection manifeste. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que la résurrection, c'est l'achèvement du pardon. C'est cette victoire de l'amour sur la mort. Et du coup, nous, chrétiens, nous croyons en la résurrection. Sinon, rien n'a de sens, c'est ce que dit saint Paul. Si le Christ n'est pas ressuscité, venez notre foi, tout ça, tout ce qu'on vit, notre association, ces bâtiments, tout ça, ça n'a aucun sens. C'est très sympathique. On est content d'être ensemble, mais bon, ça n'aurait, en termes de sens, cette portée vers la vie éternelle, alors que nous croyons que cette vie éternelle, durant cette rencontre, elle se construit, par exemple. Donc, c'est intéressant de voir ça. Ensuite, un autre aspect, c'est que, donc, je disais, c'est marqué par des gestes dans le temps qui n'atteint pas la plénitude, ou que à la fin des temps, lorsque le Christ viendra juger les vivants et les morts. Mais en même temps, c'est important et indispensable de poser des gestes de pardon, parce que ça rend la vie sociale possible. Ne serait-ce que sans attendre des grandes offenses, pardonnez-moi, je vous ai bousculé, je vous ai pas vu, ou un signe de la main, je sais pas quoi. C'est intéressant de voir comment on réagit au volant d'une voiture, par exemple. C'est un bon test. Est-ce qu'on pardonne là, celui qui dit, est-ce que je klaxonne comme ça jusqu'à dire l'autre, pousse-toi, avance, etc. Est-ce que je demande pardon? Est-ce que je fais un signe de la main en disant ok, c'est bon, j'ai pour griller un stop, j'ai machin, etc. Et puis ça n'a pas porté à plus de conséquences. Ou quand il y a un accident, dire oui, je suis en retard. C'est là l'humilité aussi. Et je pense que c'est des petits pardons qui sont des actes d'humilité qui rend la vie sociale possible. Il n'y aurait pas ces petits pardons du quotidien. Parce qu'on n'a pas fait quelque chose qu'on avait promis, parce qu'on est arrivé en retard alors qu'on avait dit que l'autre nous a attendu, parce que sais-je, on avait dit, je vais faire telle ou telle chose, et finalement, je ne l'ai pas fait. Et du coup, je trouve ça... Parce que c'est autant de semailles d'espérance, vous voyez. C'est autant de semailles d'espérance, c'est autant de... parce que nous croyons à la portée des petits gestes et des petites choses, et en la porter jusque dans la vie éternelle, que les petits actes d'amour retentissent jusque dans l'éternité. Nous le croyons. Nous le croyons. C'est la grandeur du christianisme. C'est parce que nous croyons que chaque fois que vous le faites au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Bienheureux, hein, bienvenue dans la maison de mon Père. Donc, chaque geste d'amour désintéressé, d'une manière ou d'une autre, touche à la vie éternelle, touche à l'amour du Christ, et le manifeste en même temps. Hein, des actes de patience, par exemple, hein, comme c'est important, la patience. Je me souviens comme ça, justement en voiture, c'est intéressant la voiture, parce que ça manifeste pas mal de choses. Je me souviens, comme ça, petite rue du côté de Saint-Séverin, dans ce coin-là, et gros 4x4, la personne s'arrête au milieu de la route et va chercher son pain. Bon, ça peut énerver. Je sais pas, laisse la voiture là au milieu de la route, descend, va à la boulangerie qui était là parce que y a pas de place, c'est une bagnole énorme. Bon, et toi t'es derrière. Alors, ça peut tendre. C'est pas vous voyez la situation. Tu te dis, ça peut tendre. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'ai plein de choses, etc. Alors, bah, bah, du coup, et je suis tout à fait capable de ça. Et ou alors, j'attends. Bon, pour cette fois-ci, c'est bien passé. Je vais attendre. Je vais. Bon, il y avait personne derrière moi aussi, donc ça facilitait la chose. J'étais le seul à attendre. Mais du coup, j'ai pensé à ça. Je me dis, au fond, dans la société, dans la vie quotidienne, même si là, évidemment, il y a une incivilité manifeste, un manque de respect, une délicatesse de stationner au milieu de la rue. Bon, s'il y a des parcs de stationnement ou des, voilà, c'est fait pour ça. Du coup, je me suis dit, mais est-ce qu'au fond, cette attente-là va pas aussi rendre le monde meilleur? Alors, c'est peut-être un peu idéaliste, mais alors, du coup, la dame, forcément, sortie, me voit, s'excuse, me remercie mille fois d'avoir, etc. Bon, mais du coup, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de la paix aussi dans ce petit geste tout simple? Alors que j'aurais pu tout de suite rentrer en conflit, j'étais dans mon droit, tout à fait dans mon droit. Eh bien, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de la paix qui a été semé dans ce cœur, le cœur de cette femme, qui ensuite pourra redonner un exemple et refaire, faites de même, vous aussi faites de même, hein, c'est Jésus qui dit, hein, faites de même, le lavement des pieds. Vous avez appris, ah ben, vous aussi, allez, va et fais de même. Donc, je trouve que c'est très beau de quand on est capable de ça, de cette, à la fois cette miséricorde et de, quelque part, renoncer à un droit qui nous ferait, qui en justice nous obligerait l'autre à, là c'est très modeste, hein, c'est pas une offense comme il peut y avoir, etc. Mais le quotidien c'est beaucoup ça. Et je crois que celui qui accepte de rentrer dans une logique d'amour et de pardon et de miséricorde découvre aussi que lui-même on lui a fait miséricorde. Et qu'il a d'abord besoin de cette miséricorde de Dieu. Et c'est là aussi où est-ce qu'on en est de cette. Est-ce qu'on prend conscience, on prend la mesure qu'on a besoin de cette miséricorde du Seigneur. Même si on n'a pas tué père et mère, souvent des personnes comme ça qui me disent pour la confession, oui, je vais pas me confesser parce que je redis les mêmes choses. Alors d'abord, on vous demande pas de faire dans l'originalité. Hein, vous dites, ah bah super, j'ai un truc nouveau, là vous n'avez jamais vu, vous n'allez pas vous ennuyer, vous allez voir, ça va donner, voilà. Bon, on vous demande pas de faire ça. Et puis deuxièmement, qu'est-ce que c'est que la confession? Moi aussi je confesse la même chose. Qu'est-ce que c'est que la confession? C'est Saint Benoît qui en parle, il dit, on fracasse la tentation contre le Christ. C'est-à-dire, on fracasse notre combat, on le confie au Seigneur. Seigneur, je veux te confier ce combat de médisance, ce combat d'orgueil, de mauvaise pensée, d'impureté, ce combat de manque de vérité, donc de mensonge, de, etc., etc., de jalousie, de rancœur. Je veux confier ce combat, je veux te confier, Seigneur, ce combat. Parce que je sais que toi, tu pourras m'aider. Et je reviendrai peut-être dans un mois, dans un deux ans, deux mois, un an, j'en sais rien. Eh bien, pour reconfier au Seigneur ce combat. Pour ça que il y a des temps comme le carême qui sont des temps vraiment de miséricorde parce que c'est justement le temps où on redit au Seigneur, ben, j'ai besoin de ton aide. Donc, pensez à ça, essayez de réfléchir aussi à quel point, voilà, on a besoin d'être sauvé, on a besoin d'être pardonné, mais aussi de poser des gestes concrets de miséricorde qui vous aidera aussi à aller plus loin et qui seront des signes avant-coureurs du royaume. Nous vivons comme ça. On pense que c'est des signes avant-coureurs du royaume. Pour celui qui veut les voir, celui qui veut pas le voir, même un acte de bravoure, il verra rien du tout. Mais celui qui veut voir, qui est un peu une âme contemplative, qui découvre, ben du coup, il découvre aussi dans l'autre, et dans le geste qu'il a posé de patience, de pardon, d'humilité, quelque chose qui a à voir avec le royaume de Dieu. Et puis, mais en même temps, faisons le deuil d'une unité parfaite. C'est pas facile à faire. De renoncer au paradis terrestre. C'est-à-dire, c'est pas facile. On a un désir de communion, on a un désir d'amour, on a, que ce soit pour ceux d'entre vous qui sont déjà en couple ou en vue d'eux, etc. Et en même temps, on voit la difficulté à s'aimer l'un l'autre. Et puis tous les hommes sont habités, les hommes et les femmes de notre temps sont habités par des désirs de paix. Alors peut-être pas tous, il y a peut-être l'un ou l'autre qui est plus belliqueux, mais c'est ce qui habite le cœur de l'homme et de la femme. Je veux dire, c'est... Mais en même temps, faisons le deuil dans nos familles, à commencer dans nos familles, d'une unité parfaite. Voilà, c'est notre humanité qui est blessée. Et du coup, je remets au Seigneur cette humanité blessée. Dans ma famille, j'avais du mal à parler à mes parents, ou à mes belles-sœurs, ou à mon frère, ou à un cousin, ou que sais-je. Voilà. On a du mal à se parler, parce qu'il y a eu des mots qui ont été dits, des gestes qui ont été posés, qui ont blessé les personnes que j'aimais, ou qui m'ont blessé personnellement. Donc voilà. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas une perfection... Le perfectionnisme, c'est vraiment de l'ordre de la tentation. Parce que c'est pas parfait, je le fais pas. Vous voyez, c'est parce que c'est pas au top, je le fais pas. Non, ben, je sais que ce sera imparfait, je sais que ce sera peut-être en route, mais je sais que ce geste-là, en tout cas, pour moi, il est important de le poser. Pour moi, il est important. Et peut-être aussi pour l'autre, le mettre en chemin. Ensuite, pardonner, on dit je pardonne, mais j'oublie pas. Bah, Jésus ne nous a pas demandé d'être amnésique, jusqu'à plus ample informé, il ne nous a pas demandé d'être amnésique. Donc du coup, c'est pas une question, de toute façon on ne peut pas oublier volontairement. L'oubli c'est toujours involontaire. Je vous demande d'oublier, je sais pas quoi, vous connaissez votre numéro de portable, je dis oubliez-le, on peut pas. Donc du coup c'est intéressant de dire que l'oubli justement c'est quelque chose qu'on avait attaqué, c'est involontaire. Donc on se rappelle de l'offense, oui on se rappelle de l'offense, mais quelque part c'est pardonner, c'est convertir le mal, ce qui nous séparait nous unit. On s'appuie sur le mal pour revendiquer la communion. C'est aussi vivre le mal avec une certaine paix. Parce que derrière le pardon et la réconciliation, il y a toute la question du mal et de la souffrance. Toute cette question-là, qu'on ne va pas traiter ce soir, mais qui est énorme, mais qui, vraiment, est-ce que, pour moi, je laisse le mal avoir le dernier mot, c'est-à-dire qu'une blessure, ben, c'est un peu comme une cicatrice qui suppure, comme, ou est-ce que le pardon que je vais donner, la miséricorde que je vais faire, ou que je vais recevoir, parce qu'il y a question aussi de recevoir et de reconnaître soi-même qu'on a pu être en tort. Eh bien, je sens que ça va me guérir. Ça va me guérir. Ou ça va guérir l'autre. Il n'y a pas très longtemps, je recevais un mail d'une personne divorcée, mariée, qui est venue me parler de diverses choses. Et elle m'écrivait, je lui dis, ben voilà, aujourd'hui, en tout cas, l'Église, de ce côté-là, est claire. Il n'y a pas d'accès au pardon. Et d'accès à la communion eucharistique et au pardon sacramentel. Maintenant, Dieu pardonne au-delà des sacrements, et Dieu se donne en communion au-delà des sacrements. Mais bon, lui qui avait fait une vraie démarche spirituelle, et il m'a écrit un mail hier, je ne l'avais pas vu depuis 2-3 mois, et il me dit, mais c'est de ne pas savoir qu'on a un pardon possible, qu'on puisse écouter de la bouche du prêtre, « Je te pardonne tous tes péchés », bien à côté désespéré, il dit, « Je suis face à un mur ». Et je pense que... Si, alors les médias font des gorges chaudes, etc., le sacrement du mariage, on n'y touchera pas, ça me paraît tout à fait clair. Ce qui, je sens, est plus ou moins dans les starting blocks, c'est ce que font les orthodoxes. Les orthodoxes font ce qu'on appelle un mariage de pénitentiel, c'est-à-dire que le couple nouvellement formé vient demander pardon au Seigneur de ne pas avoir été fidèle à la parole. Et de ne pas s'être donné les moyens d'être fidèle. Et donc, ce n'est pas un rite festif, comme est le mariage sacramentel, c'est un rite pénitentiel. Et donc, c'est l'évêque qui autorise ça dans l'orthodoxie. Et du coup, c'est l'accès possible pour des personnes à la communion et à la confession. Mais vous comprenez que ça va toucher epsilon, très très peu de personnes ça va toucher. Parce qu'il faut, pour 90% des personnes, ça ne les touche pas parce qu'ils ne sont pas pratiquants ni croyants même. Donc, mais juste pour vous dire que le fait de ne pas avoir accès au pardon de Dieu, pour cet homme-là, il le ressent douloureusement parce que pour lui, c'est quelque chose qui compte. Hein, et qui, du coup, ça va assez toucher son mail. Vraiment, je trouve ça très beau, hein, plein d'humilité et puis en même temps de réalité. Quoi. Hein, et donc, le pardon, c'est ça, revendiquer le mal pour revendiquer s'appuyer sur le mal pour revendiquer la communion. On ne dit pas, et ça c'est une étape indispensable, non, non, il ne s'est rien passé. Ça, c'est le pire du pire. Moi, je trouve que c'est ce qui est le plus opposé au pardon, c'est ça. C'est, non, il ne s'est rien passé. Ben, excuse-moi, je vais te demander. Mais non, c'est rien, t'en fais pas. Non, non, c'est pas rien. Non, tes paroles, tes colères, ton mensonge, ta jalousie, tes mots offensants m'ont blessé. Du coup, on nomme, dans toute étape de réconciliation, donc à deux, on nomme la blessure. On ne dit pas que c'est rien, il ne faut pas mettre la poussière sous le tapis. C'est pas comme ça qu'on avance. On dit, on a eu un différend, et l'un de nous, ou les deux, nous avons eu des mots plus forts qui ont dépassé notre pensée, ou des gestes, etc. Et de même, je dis ça dans le monde professionnel. Dans le monde professionnel, on parle très peu de pardon. Si on en parle peu dans la famille et dans le monde en général, dans la société civile, mais dans le monde professionnel, on parle. Alors que je trouve que quelqu'un qui est en responsabilité et objectivement, par la fatigue, par le stress, l'angoisse, parce que c'est 80% de nos énervements et de nos péchés aussi, eh bien, dirait à ses subordonnés, à ceux, à ses N-1, -2, etc. Ben, je demande pardon d'avoir réagi comme ça lors de la dernière réunion. J'ai cassé quelqu'un. On peut casser très vite comme ça d'un regard, d'une parole. Ben, je pense qu'il s'en sortira grandi. Il en sortira grandi. Et faites l'expérience de ça parce que il n'y a pas très longtemps, une personne me disait, voilà, dans une réunion, j'étais complètement renfermé sur moi-même, etc. Et puis, j'étais pas dans cette réunion-là, j'ai vraiment fait là, je me suis buté, bon, ça a cassé toute la réunion. Moi, je dis, pénitence, hop, tu vas prendre un choix, la prochaine fois, réunion, tu commences par demander pardon. Alors, je sais pas comment vous voyez la chose. Mais voilà, faisons aussi, ayons cette attitude-là, parce que c'est ça qui va nous guérir aussi, et c'est ça qui va être, à mon avis, surtout quand on est en responsabilité, qui fait les grands managers. Je veux dire, c'est pas celui qui se trompe pas. Les saints, c'est pas des personnes impeccables. C'est pas l'impeccabilité la sainteté. La sainteté, c'est la perfection dans l'amour. Et la perfection dans l'amour, c'est justement de reconnaître aussi dans l'humilité mes défauts et mes mensonges. Du moment que ça reste juste au fort externe, hein, juste un petit détail, fort externe ou fort interne, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, FORS, donc fort, le fort externe, c'est ce qui est visible. Et le fort interne, c'est ce qui est invisible, c'est-à-dire de l'ordre de la pensée. Donc, si vous êtes dans une démarche comme ça, de demande de pardon auprès de vos collègues ou de vos familles, etc., c'est toujours au fort externe, c'est-à-dire ce qui s'est vu. Hein, c'est pas au fort interne. Oui, j'ai pensé du mal de toi. Ça regarde la confession. Ça regarde pas la personne, parce que la personne, elle l'a peut-être vu. En général, la pensée ensuite va dans les actes, et là ça se voit. Mais juste important de dire ça, mais de faire de célébrer ça, je trouve qu'il y a vraiment d'avoir des lieux, on n'a pas ça dans les entreprises, des lieux de parole pour ça. Est-ce que nous, vous savez, en vie communautaire, chaque lundi matin, tous les lundis que Dieu fait, et donc on a une réunion de communauté où à l'issue de celle-ci, on a ce qu'on appelle les culpes. Alors vous connaissez battre sa culpe, mais ça vient de là aussi. C'est-à-dire que durant la célébration de la messe qui réunit exclusivement les frères, eh bien, on demandera pardon, mais on demande pardon en général au fort externe toujours. Mais je suis arrivé en retard à l'office, j'étais de petit déjeuner, je n'ai pas préparé le petit déjeuner, ce qui est source de tension. assez considérable. Vous savez, nos questions ne sont pas d'ordre théologique, hein, c'est rare, hein, c'est très très incarné, et surtout en vieillissant, on voit bien. Donc du coup, c'est intéressant de voir. Donc, du coup, je nomme les choses. Il s'est dans l'Église, donc ça c'est quelque chose qu'on fait depuis vraiment maintenant 25 ans, on fait ça dans la communauté, dans toutes nos communautés, et du coup dans nos trois communautés on le fait, et je trouve ça assez, ça met justement, ça permet à l'amour de circuler, ça permet, mais ça demande de l'humilité. Une chose que l'on a fait une fois, mais qui n'est pas, à mon avis, à refaire, c'est ce qu'on appelle les proclamations. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est la différence entre les proclamations, c'est-à-dire que une personne proclame la faute de l'autre. C'est alors parfois ça peut être marrant parce qu'il y a des demandes de pardon, mais qui sont en fait qui sont proclamations. C'est un peu des messages subliminaux. Je demande pardon à frère Intel, maître Hervé, mais que la prochaine fois il ferme la porte parce que sinon, voilà. Et donc du coup, j'ai un coup. Mais ce que je veux dire, parce que des trucs comme ça, c'est juste pour un peu. Mais justement, ça c'est pas faire. Le tu qui tue. Oui. Toi, tu as fait ceci, tu as fait cela. Non, ça c'est pas bon. Ce qui est bon, c'est ça m'a quand vous êtes dans une démarche de pardon, ça m'a fait mal, j'ai souffert de ça. Alors peut-être que je suis hyper susceptible, hein, et que c'est vrai qu'on appelle vite sensibilité chez soi, ce qu'on appelle susceptibilité chez les autres. Hein, moi, je suis susceptible, mais elle, qu'est-ce qu'elle est sensible, mais lui, elle, qu'est-ce qu'elle est susceptible, etc. Mais justement, je trouve que le fait d'avoir cette attitude-là et de reconnaître avec humilité les difficultés qu'on a pu avoir dans une relation, ça fait vraiment grandir. Ça construit les couples, les familles, les sociétés. Et notre société a un besoin considérable de réconciliation. Considérable. Vraiment, c'est ce qui nous manque beaucoup dans nos sociétés. Parce que ce serait des sociétés bien plus apaisées. Bien plus apaisées. Il faut demander au Seigneur. C'est pour ça qu'il faudrait que l'Église soit plus proposante, plus il faut demander au Seigneur qu'il y ait quelqu'un qui se lève dans notre Église et qui ait des initiatives, parce que c'est quand même difficile d'être contre le pardon. C'est-à-dire, c'est difficile. C'est difficile de le donner, mais le principe du pardon, je veux dire, c'est quelque part, a été incorporé à notre propre société, à tel point que tout le monde nous envie dans l'humanité la réconciliation franco-allemande. Qui est juste un miracle, mais qui était à la source de cette réconciliation franco-allemande, c'est des grands chrétiens. Hein, Gasperi, Adenauer, Schumann, c'est des grands chrétiens. Et les 12 étoiles, vous savez ça? Les 12 étoiles du drapeau de l'Europe. Vous savez, c'est parce qu'on veut. Il y a toujours eu 12 étoiles, on ne rajoutait pas une étoile à chaque pays, c'est pas comme les États-Unis, avec le drapeau, les 12 étoiles. Ça vient Apocalypse. Ça vient de la Vierge Marie. Et le bleu vient de la Vierge Marie. Donc c'est toujours bien de se le rappeler, même si certains, en votant certains de la Constitution européenne, semblent avoir perdu de vue le symbole du drapeau. Parce que on sort d'une crise par le haut. Par le haut. Et entre chrétiens, ce qui est le cas de l'Europe, entre chrétiens et actuellement, malheureusement, on voit que c'est tellement d'actualité, c'est aussi dans la prière, ensemble, qu'on sort de ça, et dans le pardon. Même si ça coûte. J'étais en notre maison d'Alsace là, pendant quelques années, mais c'est encore très vif. Hein. Chez les personnes, parce que des personnes âgées qui ont connu l'occupation, où elles étaient enfants, elles ont connu l'occupation, etc. Voilà. Il y a eu un pas de fait, et c'est très clair que cette réconciliation franco-allemande, on n'y reviendra pas dessus, ça c'est clair. Bon, on va se taper dessus pour autre chose, économiquement, socialement, etc., politiquement, mais ça c'est autre chose. Et c'est vrai qu'on n'envisage plus, en tout cas dans l'Europe occidentale, on n'envisage plus de guerre, quoi. Je veux dire, ça peut arriver, parce qu'il y a des fous partout, mais voilà. Et en tout cas, c'est un contre-témoignage considérable. Et ce qui a été, par exemple... une source vraiment de grande tristesse, justement, cette, en Ouganda, avec les Hutus et Tutsi. C'est le Rwanda, Rwanda. C'était la fierté, quelque part. Jean-Paul II a été tellement blessé de ça, que c'était la fierté, c'était le fleuron de l'évangélisation. 800 000 morts, en quelques mois, etc. Ça nous rend très modestes. Nous sommes tous capables du pire. Nous tous ici présents, avec la bonne éducation qu'on a reçue, avec tous les bons principes, nous sommes tous capables du pire. Très certainement. C'est pour ça qu'il faut prier, pour demander la grâce. Parce qu'on peut vite abandonner le Seigneur. Alors, un autre point, c'est aussi porter la difficulté en sens intelligent de croire qu'à une vie de famille ou de couple ou de société, d'entreprise sans difficulté. Croire à une vie où tout irait tout seul. Le couple, c'est d'abord l'union de deux pauvres dont je vous parlais, qui, malgré leur pauvreté, se sont mis en route pour servir la vie. Voilà. Et ça, je pense que c'est important, ça, de dire que ce n'est pas parce que je suis blessé ou que tu m'as blessé qu'on ne peut pas construire quelque chose. Je pense aux questions de fidélité matrimoniale, qui sont certainement les difficultés les plus douloureuses à vivre en couple. Voilà, y a des couples qui sont arrivés à les dépasser. Parce que les infidélités, ça peut venir de la tentation, très clairement. La tentation, c'est justement par l'imagination, le démon nous tente, c'est-à-dire c'est par l'imagination que quelque part on voit quelque chose comme désirable, et que du coup, voilà, je vois ce bijou qui n'est pas à moi, je vois cette relation extramatrimoniale qui est désirable, et c'est ce que c'est intéressant dans le récit de Genèse, et le fruit était désirable à leurs yeux, c'est-à-dire que déjà dans leur tête, ils le voient comme désirable. Si c'était pas désirable, ce serait pas une tentation. Et donc on met en place des stratégies pour arriver, et donc du coup, et ensuite on voit bien qu'on... Mais si c'est le fruit de l'un des deux dans le couple qui a manqué à la fidélité, c'est pas pour ça que l'autre ne doit pas s'interroger. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse passer à l'acte de cette manière-là, alors que ça fait 10 ans, 15 ans qu'on est hyper impliqué dans l'église, que nos enfants vont au scoutisme, etc., et que tout, voilà, on en coche toutes les cases, quoi, grosso modo, et on est même abonné à Famille Chrétienne. Donc, du coup, juste pour dire ça, voilà, est-ce que c'est. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, c'est ça, c'est pour ça, donc, c'est l'important d'être modeste. Et comment est-ce qu'on reconnaît la modestie? Par la prière. C'est un des signes de la modestie. Et puis par la demande de pardon. Parce que confesser, oui, vous avez ces gens qui arrivent et disent « Ah ben j'aime pas confesser ». Ben non, c'est sûr, j'aime pas non plus aller chez le dentiste. Mais bon, il se trouve que, voilà, de temps en temps, il faut y passer. Quoi. Donc voilà, voilà. Alors, le pardon, attends, où est-ce que j'en suis? C'est aussi porter la difficulté, c'est ça, il y a des couples, hein, le couple c'est d'abord l'union de deux pauvres, ça, porter ensemble les choses difficiles. Plus une personne est difficile, plus il est important d'avoir des relations avec elle. Et vous me direz, ça peut paraître paradoxal. Plus une personne est difficile, plus c'est important d'avoir des liens. Parce que moins on a de liens, plus c'est difficile. Parce que plus l'imaginaire de l'un et de l'autre travaille, forcément. Surtout si à la base, il n'y a pas une... Quand il n'y a pas de souci, Ben, du coup... voilà, ça roule tout seul. Mais quand on commence, on sent qu'il y a de l'eau dans le gaz, etc., c'est important de se rencontrer pour éviter que ça dégénère, etc. Donc, donc de se rappeler l'importance de la prière comme un signe de modestie. Et c'est vrai que le processus de réconciliation, c'est la présence de Dieu qui est au début, durant, je veux dire, qui est en permanence au cœur même de ce pardon qui est donné. C'est par le haut qu'on sort d'une crise. C'est de la main du Seigneur qu'on est accompagné pour pouvoir nous-mêmes cheminer et aller à la rencontre de celui qui m'a blessé. Et ça, de ce fait-là, c'est pas humain. Hein, en espagnol, on dit « perdonar es divino ». Donc vous avez compris vous-même, pardonner, c'est divin. « Pecar es humano », le péché, c'est humain. « Perdonar es divino ». On sort d'une crise par le haut, ça j'en ai parlé, par la prière en tout. En tout cas, c'est capital. Et c'est vrai que si tous on se met... Et là, vous voyez, en France, par exemple, quelque chose qui est vraiment problématique, cette question de laïcité. Parce que, autant qu'il y a la séparation des pouvoirs, du spirituel, du temporel, c'est Jésus lui-même qui a instauré cette laïcité, mais le fait de repousser la dimension spirituelle uniquement dans la sphère privée, et de façon très violente, et on voit bien qu'il y a une coupure qui n'est pas naturelle, et des personnes qui arrivent de d'autres traditions religieuses, on voit que c'est très compliqué à vivre, parce que c'est dans ces traditions religieuses, eh bien, tout est mêlé, et le politique, et l'économique, et le religieux, et le social. Et du coup, pourquoi est-ce que... Parce que quelque part, il n'y a plus une espérance ensemble, il n'y a plus une destinée commune ensemble. Vous voyez, et donc pour se réconcilier les uns avec les autres, s'il n'y a pas cette dimension verticale, si on en est limité uniquement à l'affrontement de nos psychologies sans une transcendance, je trouve que ça devient désespérant. Et du coup, ça devient violent. Parce qu'il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus de... Vous voyez, et de ce point de vue-là, c'est important de dire que cette dimension spirituelle... vous vous rappelez certainement en Afrique du Sud, Mandela, qui, à la chute de l'apartheid, a fait ce qu'il appelait une campagne qui s'appelait Vérité et Réconciliation. Vérité et Réconciliation. Et il avait demandé justement à l'évêque anglican, il avait demandé de conduire dans le pays cette opération de vérité, j'ai commis le mal, mais en même temps, je veux recevoir le pardon de celui que j'ai agressé, etc. Mais parce que, justement, le Monseigneur Desmond Tutu, parce qu'il y avait une dimension transcendante. Alors, les problèmes sont loin d'être réglés, etc., mais ça a permis aux Blancs de rester en Afrique du Sud, et alors qu'on voit dans d'autres pays où il y a eu la décolonisation, c'était très compliqué. Et donc, juste pour vous dire que la transcendance, que ce soit au plan personnel, de couple, communautaire ou au niveau des nations, aide beaucoup. Une famille qui prie ensemble, mais c'est énorme. C'est énorme. Parce que du coup, on remet dans une perspective nos différends, nos écartements d'humeur, nos difficultés à nous supporter, mais on le remet dans une transcendance. Pour ça, si vous avez l'occasion de prier en famille, et pourtant, on voit comme c'est difficile, même dans l'intérieur de couples catholiques, de voir des personnes qui ont la difficulté de prier ensemble. Alors que, vous ne vous rendez pas compte que, comme c'est personnel, comme c'est intime, j'ai beaucoup de pudeur. Je dis, mais c'est curieux, mais pour d'autres actes, la pudeur n'est pas aussi importante que, on partage très vite d'autres intimités. Donc, pourquoi est-ce que la pudeur spirituelle... Alors, c'est vrai que partager sa foi, c'est très fort. En couple, j'entends en couple, je parle de personnes qui partagent une intimité, par définition. Mais partager sa foi, prier ensemble... Je trouve, mais comme on a du mal, beaucoup, je vous dis, mais au moins, vous pouvez au moins vous bénir, vous pouvez, vous faire le signe de la croix avant de vous quitter, si vous êtes fiancé, avant de vous endormir, vous faites le signe de la croix, et c'est l'irruption du transcendant dans vos vies. Vous voyez, c'est l'irruption. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas de communion véritable sans une transcendance quelque part, sans nous tirer vers le haut. Parce qu'il n'y a pas de pardon aussi sans cette transcendance. Vous voyez, c'est, bon, c'est des choses qui c'est bien de pouvoir le redire. Ensuite, ce n'est pas parce qu'il y a eu blessure, soit de ma faute ou de la faute d'un tiers, que je ne peux pas construire ma vie, ma famille. S'il fallait être indemne de tout pour commencer à construire quelque chose, on ne ferait rien. Une des formes du pardon, c'est dire qu'au fond, ma blessure ne m'empêche pas d'avancer. C'est un signe de résurrection. Hein, vous connaissez Tim Guénard, ça vous dit quelque chose? Tim Guénard qui a eu un parcours extrêmement difficile de délinquance, de, etc., etc., et qui a rencontré le Seigneur par différents moyens, et puis entre autres, après il a rencontré son épouse, etc., et je trouve ça un homme vraiment formidable. Et qui maintenant, alors qu'il était dans la rue, il était vraiment rebelle, extrêmement violent, aide maintenant de sa blessure est née une fécondité. C'est ça, au fond, un des signes du pardon. Peut-être qu'il n'y aura pas réconciliation, mais de ma blessure, j'en ai fait une source de vie pour d'autres. J'en ai fait une source de vie pour d'autres. C'est... Vous savez, la personne qui a mis en place les allocations familiales, on le sait peu, c'est une personne qui n'a pas pu avoir d'enfant. Un couple, comme ça, il n'a pas pu... Mais quelle fécondité, j'allais dire, extraordinaire. Parce qu'il y a une blessure, forcément, pour un couple, la stérilité. Mais, voilà, il a dit, voilà, et comment aider aussi. Et c'est ça le signe du pardon. C'est... Comment font avancer, comment construire, et c'est ça le signe de la résurrection. Comment faire pour que cet amour-là, il soit le plus fort. Ce soit pas l'offense qui gagne tout. Ce soit pas la rancœur la jalousie qui nous dévore. Mais c'est là où on a besoin du Seigneur, parce qu'on se sent bien très, très pauvre, limité de ce côté-là. Donc pour se réconcilier, il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Pour pardonner, ça ne se fera pas sans nous. C'est pas un oubli. Laisse passer le temps. Non, le temps ne fait rien à l'affaire. Le temps peut au contraire aggraver l'affaire. Et donc, il faut le vouloir. Il y a la partie psy, mais il y a la partie spi. L'intelligence et la volonté. Aimer, c'est le premier acte de la volonté. Donc, c'est vraiment ça qui... Et se réconcilier, c'est passer du projet à la promesse. C'est-à-dire qu'il faut rechoisir l'autre. Il y a toujours un deuxième choix à faire. Il y a toujours un deuxième acte à poser. Oui, quand on s'énerve pour des personnes colériques, soupolées comme ça, ne maîtrisent pas. Parfois, elles demandent pardon, quand on les écoute en confession, elles demandent pardon, je demande pardon parce que je me suis mis en colère. Mais, or, dans la confession, on demande pardon pour des actes volontaires. C'est important de savoir ça. Où notre liberté, alors que nous savions que nous allions dans le mur, eh bien on y est allé. Mais nous le savions. Parce que j'y trouvais une joie, parce que j'ai menti pour me faire valoir. Mais je sais très bien que c'est un mensonge. Je sais qu'il y a deux chemins qui, pour si je suis alcoolique et pour aller à mon travail, il y en a un qui passe devant le bistrot, l'autre non. Eh bien là, je suis libre. Devant la bouteille, je suis plus libre. Et je dirais même... Quelqu'un m'a dit il n'y a pas très longtemps, surpris avec 2 grammes d'alcool, il dit « Moi, j'avais bu que 2 verres de vin. » Il est un tel déni, si tu veux. Mais justement, c'est intéressant de voir qu'il n'y a plus de liberté là. Est-ce qu'on confesse des actes libres? Donc réfléchissez, où est-ce que vous aviez un espace de liberté que vous auriez pu prendre un autre chemin? Et on sait que ça, on sent que ça vient, on sent que oui, ça commence à déraper. Et une chose en appelle une autre, et un pas en appelle un autre. Et on sent que peut-être on met en place des voilà, et ensuite on commence à mentir pour se justifier, et le mensonge nous entraîne dans un autre acte. Vous voyez, c'est vraiment le faire complètement un cycle infernal, quoi. Hein. Et du coup, je crois qu'au contraire, c'est important de pouvoir dire, dans le sacrement de la réconciliation, on a cette chance dans l'Église catholique, de ce sacrement de la réconciliation, on écoute le prêtre nous dire « Je te pardonne ». Non pas « Jésus te pardonne », « Je te pardonne tous tes péchés ». Et le fait de dire, même les psychologues le reconnaissent, le fait de dire les péchés, C'est une manière de jeter loin de soi. Le fait de dire fait que ils sont plus en nous quelque part. Je les ai dit, je les ai confiés. C'est pardonné. Il y a des choses, c'est sûr, qu'on aurait voulu, on aurait préféré ne pas faire. Certainement dans nos vies. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est pour ça qu'il y a un pardon. Parce que pour nous redonner, c'est, mais c'est important d'avoir cette grâce de revoir le prêtre et de qui a reçu mission. C'est vraiment, nous vous en supplions, dit saint Paul, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Et que cette réconciliation avec Dieu, par effet de domino, engendre toutes les formes de réconciliation. On a la grâce de ce sacrement. C'est quoi un sacrement? C'est un lieu où, de façon certaine, on sait que le Seigneur nous attend. Il est là. Il est ailleurs aussi. Dieu ne se limite pas à ce sacrement, je veux dire, grâce à Dieu, mais on le sait qu'il est là. Et c'est important au moment de se marier, c'est important au moment de baptiser l'enfant, de communier, de recevoir le pardon, de recevoir l'onction des malades, voilà, une présence certaine du Seigneur. Donc, au fond, il y a un nous. Si le premier geste t'a échappé, que le deuxième ne t'échappe pas. Si le premier geste, dans la colère, sous l'impulsion, sous l'énervement, l'agacement, ou le désir de la vanité, ou de la jalousie qui t'a poussé au mensonge, etc., que le deuxième geste où tu t'es rendu compte, et c'est là l'importance d'éclairer sa conscience. C'est capital d'éclairer sa conscience. Parce qu'il y en a qui se rendent même pas compte. Mais si tu as une conscience droite, c'est-à-dire que tu te rends compte que tu as fait le mal alors que... parce qu'arrive, du coup, demande pardon. Demande pardon à ton frère, hein, laisse-la ton offrande, va te réconcilier, dit Jésus. Et puis ensuite, présente ton offrande au Seigneur. Mais le problème, c'est qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on a rationalisé. Ça veut dire quoi, rationaliser? Ça veut dire qu'on s'est donné des raisons pour faire ce qu'on a fait. On n'a pas, prenons un cas, sur sa feuille d'impôt, on ne marque pas tous ses revenus. Et là, il se trouve qu'on a beaucoup de signes du Seigneur, justement, pour ne pas marquer tous nos revenus sur notre feuille d'impôt. Si vous avez plusieurs, ou peut-être pas vos âges, sources de revenus, vous n'avez souvent qu'une qui est votre salaire. Mais, qu'est-ce qu'on se dit? Mais au fond, le plus grand voleur, c'est l'État. Je ne devrais pas vous dire ça, parce que ça vous pousse au vice. Hein. Voler un voleur, bon, c'est presque un acte de bras. C'est pas péché, non, mais non. Et même justement, en espagnol, ils disent 100 jours de pardon. Voler un voleur, c'est 100 jours de pardon. Donc, c'est pas dans l'évangile, ça. Donc, du coup, c'est intéressant de voir ça, de dire, voilà, c'est la rationalisation. La rationalisation, c'est je me donne des raisons pour agir comme j'ai agi, alors que je sais au fond de mon cœur que j'ai eu tort. D'où l'importance de former votre conscience, laisser éclairer votre conscience, faire le bien et éviter le mal. C'est ça la conscience. Donc ça veut dire, où est-ce qu'est le curseur? Mes amis, sur ce, avez-vous des questions? Oui.
J'ai une question, c'est quand on parlait de la prière, en fait, grosso modo, si on prie à plusieurs, ça aide à se réconcilier. Et en fait, ma question n'est pas abordée, mais c'est entre plusieurs religions. On sait qu'aujourd'hui, il y a pas mal de tensions. Est-ce que vous pensez qu'on peut prier justement, enfin, quelle portée de prière?
Alors, je pense que ça... Alors, répétez la question, mon père. Alors, la question, c'est, est-ce que vous avez dit, le fait de prier ensemble aide à la réconciliation. Mais, dans le cadre de différentes religions, pensez-vous que le fait d'une prière interreligieuse, hein, vous faites la différence entre interreligieux et l'œcuménique, c'est pas pareil, l'œcuménique, c'est entre chrétiens, stricto sensu, interreligieux, c'est au-delà des chrétiens. Est-ce qu'une prière interreligieuse peut aider? Alors, oui, et quelque part s'est vécu et ça a été inauguré par Jean-Paul II à Assise. Alors, ce n'est pas du syncrétisme, c'est-à-dire que on est ensemble et on prie dans sa tradition religieuse, ensemble, pour la paix. La prière pour la paix, la démarche d'Assise, on a fêté les 20 ans d'Assise il n'y a pas très longtemps, la démarche d'Assise, c'était ça, Jean-Paul II a dit, toutes les personnes, tous les êtres humains cherchent la paix. Mais, du coup, il a convoqué toutes les religions de la terre, et puis Benoît XVI est allé encore plus loin, il a dit, même les non-croyants, bah, venez. Et il a invité, c'était une Française qui se disait athée, et qui l'a invité même à prendre la parole, etc., et à faire une démarche pour la paix, de désirer la paix. Du coup, même vous venez. C'est-à-dire, quelque part, comme c'est un bien tellement grand, la paix, c'est un bien qui habite, qui est universel, je veux dire, qui, personne peut être contre, je veux dire, c'est qui est une condition de tous les autres biens, la paix. Bon, si vous êtes, le fait d'être en paix, nous on râle pour tout, mais quand même, on rentre chez nous, grosso modo, bon, il y a des crimes, des délits, etc. Ça existe, mais on n'est pas en état de guerre. Et du coup, alors je crois que très profondément, alors il faut que ce soit bien organisé. C'est-à-dire que c'était pas on va se mettre tous en cercle de différentes et on va prier tous ensemble. Non, c'est dans sa tradition, chacun prie. Et ça, je crois beaucoup à ça. C'est dans sa tradition religieuse, chacun prie, ou chacun fait une démarche, il n'a pas une tradition religieuse. Et ça aide certainement à faire. Et ça existe de fait. Alors, ça n'empêche pas, encore une fois, de dire qu'il n'y a pas des vrais problèmes. De même que dans les prières œcuméniques, donc entre chrétiens. Ça n'empêche pas de dire, ben voilà, avec nos amis protestants, voilà, maintenant, la Saint-Barthélemy s'est passé, mais c'est pas, maintenant, quelque part, on s'est jeté dans les bras l'un de l'autre après le concile, on s'est reconnus frères, etc. Mais maintenant, quelque part, on arrive au dur, à la question plus dure. C'est-à-dire, il y a des questions théologiques, donc, du salut, qui pose. Voilà. Ça veut pas dire qu'on ne reconnaît pas, au moins qu'on soit d'accord sur ce qu'on n'est pas, sur notre désaccord. C'est déjà pas mal. D'autres questions? Oui.
Vous avez parlé du génocide rwandais.
Oui.
Il y a une femme qui s'appelle Immaculée, qui est une Tutsi, et
oui.
Qui a vu toute sa famille massacrée pour elle par des gens qui étaient ses voisins, qui par la suite, donc elle appartenait à ses bourreaux de sa famille. Comment est-ce que nous, à notre échelon, on peut arriver à appartenir à.
Donc la question est de savoir, au Rwanda, il y a une personne qui a vu toute sa famille décimée et qui finalement a pardonné. Et comment, nous, à notre échelon, on peut arriver à ça, sachant qu'on vit des drames infiniment moins douloureux que ceci. Cette personne-là, il y a fort à parier qu'elle a eu une démarche spirituelle. Je pense que l'on peut retenir des exemples comme ça, ça nous encourage, parce que les souffrances dont on souffre sont bien moins grandes. C'est des témoins. Je pense que c'est le témoin de dire que c'est possible. Et de nous poser des exemples. Alors, c'est là où c'est difficile à répondre comme question, parce que chacun saura l'acte qu'il doit poser, que ce soit au plan professionnel. Encore une fois, moi je suis dans le domaine professionnel, il y a aussi une place pour le pardon et la réconciliation. Et là aussi, ça demande un acte de foi et du courage. Donc, au plan familial aussi, je pense que ça nous encourage plutôt ça. Moi, je vois pas d'autre chose. Voilà, nous, on peut en prendre de la graine, disant si quelqu'un comme ça, avec un degré de souffrance telle, a pu faire cette démarche, a fortiori avec un degré inférieur et moindre de douleur.